Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Plus de 750 000 candidats au baccalauréat s'apprêtent à plancher sur les épreuves écrites de philosophie ou de français ce lundi. Coup d'envoi d'une semaine marathon sur fond de grève SNCF, vous l'entendrez.
Nous reviendrons aussi sur le limogeage hier soir de Virginie Calmel, jusque-là numéro 2 du parti Les Républicains. Après de nombreuses critiques à son encontre, Laurent Wauquiez la remplace par Jean Leonetti.
La droite dure l'emporte face à la gauche en Colombie. Iván Duque est le nouveau président colombien. Et il l'a déjà dit cette nuit, il veut remodeler l'accord de paix passé avec l'ancienne guérilla des FARC. Nous irons sur place.
Les solutions existent en droit pour accueillir justement et équitablement les migrants. Parole d'une juriste dans ce journal alors que les 630 migrants de l'Aquarius ont accosté à Valence en Espagne hier.
Et puis Angela Merkel cherche du soutien à l'étranger pour sa politique migratoire. Jeu d'équilibre. La chancelière allemande rencontre l'italien Giuseppe Conte aujourd'hui avant le français Emmanuel Macron demain. Ce journal de 8 heures sur France Culture commençait à peine que le silence s'est fait il y a quelques secondes dans des centaines de centres d'examen un peu partout en France. Les principales épreuves écrites commencent aujourd'hui pour le baccalauréat et comme de tradition, la première d'entre elles est la philosophie. Plus de 753 000 lycéens et candidats libres ont ou vont avoir la tête baissée sur leur feuille d'examen. Je me tourne donc vers le spécialiste éducation de France Culture, Hakim Kasmi. Bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
753 148 candidats, très exactement. C'est l'année des records pour le baccalauréat.
Oui, une augmentation qui s'explique par la hausse démographique avec le baby boom au début des années 2000. Afin de soulager les 30 000 candidats handicapés qui bénéficient d'un tiers-temps et qui ont donc des épreuves plus longues, il n'y aura qu'une épreuve par jour pour l'ensemble des candidats au baccalauréat cette année. Le nombre d'élèves qui accèdent au niveau bac est lui aussi en hausse, 79% d'une génération aujourd'hui contre 63% il y a encore 18 ans. Enfin, pour ne pas perturber les candidats qui n'auraient pas encore trouvé de place dans le supérieur pour la rentrée, la plateforme Parcoursup sera suspendue jusqu'au 26 juin.
Voilà pour le cru 2018, Hakim. Un baccalauréat qui se fera sur fond de grève SNCF si la CFDT et l'UNSA ont décidé de suspendre le mouvement le temps du bac. Ce n'est pas le cas de la CGT et de Sudrail. Qu'est-il mis en place pour les candidats, Hakim ?
Alors, les rectorats ont mis en place avec la SNCF un dispositif spécial dans les gares pour guider les candidats au baccalauréat avec un numéro vert, des bus de substitution et même le taxi gratuit pour ceux qui n'arriveraient pas à se rendre dans leur salle d'examen faute de train. Aujourd'hui, en ce jour de grève, la SNCF a même principalement mobilisé les conducteurs non grévistes pour acheminer les candidats au bac. Mais le ministère de l'Éducation appelle tout de même les candidats dans la mesure du possible à anticiper leur départ, ce qui a dû être fait normalement, puisqu'il est déjà 8 heures, vous l'avez dit, ils ont déjà commencé leur examen. Un retard d'une heure maximum sera accepté pour raison de transport, avec, si possible, un justificatif.
Merci beaucoup, Hakim Kasmi. Ce marathon d'épreuves écrites va durer 8 jours pour le bac général, les filières techniques et le bac professionnel également. Le communiqué de presse ne fait qu'une seule phrase, deux petites lignes pour limoger Virginie Calmel sans même la nommer. Jusque-là numéro 2 du parti Les Républicains, bras droit donc de Laurent Wauquiez, elle jugeait pourtant ouvertement la ligne politique de son patron trop personnelle. Après deux semaines de critiques ouvertes, après une interview cinglante hier dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, Virginie Calmel s'est donc remplacée sur décision de Laurent Wauquiez, remplacée par le maire d'Antibes, un ancien ministre, Jean Leonetti. Et hier soir, il y avait dans les rangs des Républicains assez peu de monde pour la défendre. Ce limogeage est logique, par exemple, pour le député de Moselle, Fabien Di Filippo.
Aujourd'hui, nos militants n'acceptent plus qu'il y ait des combats de personnes qui passent avant les débats de fond, qu'on se divise et qu'on méprise tout le travail qui est fait sur le terrain pour être au plus près des Français. Et si des gens ne souhaitent pas jouer le jeu de l'équipe, ils n'ont pas leur place dans l'équipe. Et le collectif, parce qu'en politique, c'est toujours une aventure collective, il passera toujours devant les individualités, surtout si elles ne cherchent qu'à exister. On ne peut pas se faire de la publicité ou chercher à exister sur le dos des collègues ou sur le dos surtout des militants et des Français qui ne comprennent plus ce genre d'attitude.
Le comportement de Virginie Calmels, critiqué donc par beaucoup, salué en revanche sur Twitter par le maire de Bordeaux, Alain Juppé. Il salue le courage et les convictions de sa première adjointe. Autre soutien, le maire d'Aïs-les-Roses dans le Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun, qui critique une décision brutale.
C'est pas franchement l'esprit de la famille politique. Moi j'étais assez critique ces derniers temps également de l'attitude qu'avait Laurent Wauquiez à la présidence du parti. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, il a dérapé. Et cette fois, il a même dérapé en bafouant mon statut. Il va falloir que Laurent Wauquiez explique et justifie sa décision. Et à mon avis, ça ne va pas être simple. Moi, j'ai eu Virginie Calmels au téléphone et j'ai le sentiment qu'effectivement, tout ça s'est passé de manière très incorrecte. Depuis des semaines, on comptait les départs. Et bien là, on va simplement pouvoir compter sur les doigts de la main ceux qui restent. Et c'est vraiment malheureux pour la famille qui est l'héritière du gaullisme en France.
Virginie Calmels s'est donc remplacée par Jean Leonetti. Réaction ironique de Richard Ferrand, patron des Marcheurs à l'Assemblée à ce propos. Je le cite, « Bien connu pour ses travaux sur la fin de vie, nul doute, écrit-il, que Jean Leonetti pourra éclairer la direction du parti de Laurent Wauquiez sur son avenir. » Fin de tweet. Quand les politiques parlent au passé composé, c'est qu'il y a de l'orage dans l'air. Voici le thème du billet politique de Frédéric Saïs dans moins de 10 minutes après ce journal. Et il reviendra donc sur ce départ forcé de Virginie Calmels du parti Les Républicains, de la tête du parti en tout cas. À chaque semaine, son nouveau projet de loi en France. Dans la matinée tout à l'heure, ce sera donc au tour de la loi Pacte d'être présentée en Conseil des ministres. Pacte pour plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. 71 articles autour de la simplification des seuils sociaux et fiscaux, de la réforme de l'épargne salariale ou encore des privatisations. Bref, redéfinir la raison d'être de l'entreprise en France. Faut-il ainsi fixer des objectifs sociaux et environnementaux dans les statuts de l'entreprise? Le rapport Sénarnota le préconisait il y a quelques semaines, mais le patronat a refusé. Ce ne sera donc qu'une option. Déception des syndicats et notamment de la CFE-CGC, syndicat de l'encadrement, et de son secrétaire national Gérard Mardinet.
Les entreprises sont aujourd'hui, pour les plus grandes, gérées à court terme avec le fait de vouloir réaliser en particulier des résultats à court terme et de les distribuer aux actionnaires. Et donc, repenser la place des entreprises dans la société, c'est leur donner plus le sens et la préoccupation du long terme, et en particulier en considérant les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. C'est un premier pas, clairement, mais si c'est pas obligatoire, un certain nombre de gens, parce qu'il y en a des directeurs d'entreprises qui ont vraiment le souci du long terme, le feront, et c'est ce qu'on appelle les entreprises à mission, mais le déploiement vers ce type de société et la prise en compte du long terme va prendre beaucoup plus de temps que si la loi était plus prescriptive. Le fait que ça soit facultatif va finalement réserver au seul volontariat le fait de discuter de ce point dans les conseils d'administration, et ça nous semble une restriction qui est vraiment pénalisante pour les entreprises et pour leur gestion à long terme.
Gérard Mardinet avec Catherine Pétillon. Le projet de loi Pacte présenté en Conseil des ministres ce matin ne sera pas examiné par les députés avant la rentrée prochaine en septembre. Embouteillage législatif à l'Assemblée oblige.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal, 1h du matin. En Colombie, le pays s'est endormi avec un nouveau président.
Iván Duque, le candidat de la droite dure, a battu sans réelle surprise celui de la gauche, de la nouvelle gauche, Gustavo Petro, un écologiste, ancien guerriero. Iván Duque emporte donc cette présidentielle avec 54% des voix et il devient à 41 ans le plus jeune président de l'histoire colombienne. Pour en savoir plus ce matin, nous retrouvons notre correspondante en Colombie, Nadjet Benrabah. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Nadjet, qui est ce nouveau président ?
Iván Duque est le représentant de la droite conservatrice de la Colombie. Son parti, le Centre démocratique, a longtemps été au pouvoir, notamment grâce à un autre homme, Álvaro Uribe, une figure politique nationale qui a soutenu Iván Duque durant toute sa campagne électorale. Pour les analystes, il est la clé de la victoire du nouveau président. À 41 ans, Iván Duque a peu d'expérience en politique car il a fait carrière dans le secteur bancaire. Il a travaillé par exemple 11 ans à la Banque interaméricaine de développement. Puis en 2014, il est entré au Congrès colombien. Pour son parcours politique et son âge, la presse colombienne le surnomme le Macron d'Amérique latine. Il est le président le plus jeune à être élu depuis 1872. Vainqueur avec près de 54% de voix, Iván Duque veut réformer les accords de paix signés avec les FARC, baisser les impôts pour les entreprises et accentuer la pression internationale contre le gouvernement de Nicolas Maduro au Venezuela. Mais il devra faire face à une forte opposition. Son adversaire du second tour de l'élection, l'homme de gauche anti-système Gustavo Petro, a réuni près de 42% des voix, un score historique pour la gauche dans le pays. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, une confrontation gauche-droite s'est installée en Colombie.
Et autre première pour la Colombie, Iván Duque a pour vice-présidente une femme, Marta Lucía Ramírez, ancienne ministre de la Défense et avocate de métier. Les combats vont probablement reprendre en Afghanistan, faute d'accords durables, d'accords de paix sur une trêve donc entre le gouvernement et les talibans. Ces derniers ont refusé hier après-midi la main tendue du président afghan. Et d'ailleurs, hier, un attentat suicide a fait au moins 18 morts, 49 blessés dans la ville de Jalalabad, où sévit parallèlement le groupe État islamique. Le kamikaze visait a priori des talibans. Le groupe État islamique combattu en Syrie par la coalition menée par les États-Unis et par les forces pro-gouvernementales. Des offensives parallèles mais séparées. Ainsi, les positions du pouvoir syrien dans l'est du pays ont été frappées cette nuit par des avions de guerre de la coalition internationale. C'est ce qu'affirme l'agence officielle syrienne et l'Observatoire syrien des droits de l'homme parle ce matin de 38 combattants pro-régime tués lors de ces frappes. La France et la Libye renforcent leur coopération pour mieux maîtriser les flux migratoires. L'Élysée l'a fait savoir hier soir, expliquant vouloir lutter contre les filières de traite des êtres humains. Emmanuel Macron soumettra par ailleurs à la chancelière allemande son idée de centre de départ dans les pays que fuient les candidats à l'exil. La Libye en fait partie. Alors est-ce une idée pertinente? Question posée par Mathieu Laurent à Bérangère Taxil, professeur de droit à la faculté d'Angers.
Dans les pays de départ, il y a aussi des difficultés inhérentes au traitement, puisque en Libye, il est difficile quand même d'aller à une ambassade pour demander l'asile. Les pays de départ sont des pays qui sont en guerre, qui font l'objet de persécutions systématiques, et donc cela nécessite de la part des pays européens de dialoguer avec ces États. Et il est difficile quand même de les considérer comme des pays sûrs avec lesquels on va pouvoir vraiment mettre en place des partenariats pour réguler ces flux migratoires. En revanche, peut-être qu'il faudrait davantage développer dans l'idée de ces centres européens de pays de départ, des systèmes de parrainage comme il existe par exemple au Canada, qui va chercher les réfugiés sur place et qui permet à des personnes privées, des familles par exemple, ramener certains réfugiés qui sont identifiés à distance. Il peut y avoir des solutions, elles existent en droit, les outils juridiques existent. Il faut les mettre en œuvre.
Bérangère Taxil qui co-signe avec d'autres juristes européens une tribune dans le journal Le Monde, datée d'hier après-midi. Tribune intitulée Aquarius, non, l'Italie n'est pas la seule responsable. L'Aquarius qui est d'ailleurs arrivé hier dans le port espagnol de Valence. Les 130 migrants passagers de ce navire ont été pris en charge et ils ont été emmenés dans des centres d'accueil. La question migratoire, toujours au cœur des préoccupations européennes en ce moment et des politiques internes dans chaque pays. Intenses échanges à ce propos aujourd'hui pour Angela Merkel, aujourd'hui et toute la semaine d'ailleurs. Elle doit rencontrer demain Emmanuel Macron en vue de préparer le prochain sommet européen fin juin. Et elle reçoit aujourd'hui le président du Conseil italien, Giuseppe Conte. Nathalie Versieux, vous êtes à Berlin pour France Culture. Aujourd'hui, avec le Premier ministre italien, c'est donc évidemment la question des migrants qui va dominer l'agenda.
Effectivement, la question des migrants va dominer les entretiens Merkel-Conte, alors qu'en Allemagne, une grave crise politique divise le camp conservateur à ce sujet, menaçant la fragile coalition. Angela Merkel, tout comme Emmanuel Macron, considère que la gestion des migrants ne peut être qu'européenne. Elle s'oppose donc, comme le président français d'ailleurs, à la notion d'axe des pays volontaires présentée la semaine dernière à Berlin par le chancelier autrichien aux côtés du ministre de l'Intérieur allemand Horst Seehofer, avec qui Angela Merkel précisément est en total désaccord sur les questions migratoires. Cet axe, auquel appartiendrait également le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini, cherche à faire pression sur les dirigeants européens pour durcir la politique migratoire.
Angela Merkel, sous pression, l'a bien compris à Berlin, va-t-elle chercher à se rapprocher des positions françaises sur les migrations, Nathalie ?
certainement, et ça pourrait être plutôt une bonne chose pour les projets de réforme de la zone euro voulus par Emmanuel Macron. Angela Merkel, en effet, a aussi besoin du soutien de la France sur les questions migratoires. Elle pourrait être amenée à céder du lest sur la réforme de la zone euro en échange. Elle pourrait faire un pas vers Paris et Rome sur l'idée de davantage de convergence au sein de la zone euro, tout en restant ferme sur son refus d'une remise de dette pour l'Italie, même en cas de coup de pouce italien sur les questions migratoires.
Merci Nathalie Versieux, notre correspondante à Berlin. Comme Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande l'avaient fait avant lui, Emmanuel Macron va rencontrer le pape. Le chef de l'État se rendra mardi prochain dans une semaine au Saint-Siège. Il sera reçu en audience par le pape François, c'est ce que souligne ce matin l'Élysée par communiqué. Aucun problème n'a été signalé près des centrales nucléaires du Japon après un tremblement de terre cette nuit, séisme d'une magnitude de 6,1 qui a fait au moins 3 morts dans la ville portuaire d'Osaka. En France, les dernières averses avant un temps lumineux tout pour ce début de semaine. Voilà ce qui est prévu ce matin, des averses de l'Aquitaine jusqu'aux Hauts-de-France. Le soleil, lui, sera présent dès ce matin sur le sud-est et les températures, il fait 15 degrés à Cherbourg, 16 à Brest, comptez 18 à Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand et déjà 25 en bord de Méditerranée.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal, 8h16.